Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes au bon endroit et au bon moment. Nous voilà bien tous ensemble, comme chaque samedi matin, vous rendre la vie plus simple et plus douce avec plein d'astuces, d'économies et de recettes toujours plus gourmandes. Eh bien, c'est notre mission de 9h15 à 10h sur RTL. Et c'est parti pour le sommaire. Connaissez-vous le cashback qui vous est bien souvent proposé sur certains sites marchands juste après avoir fait des achats? Alors comment gagner de l'argent avec ce service? Grâce à l'éclairage d'Armel Lévy, journaliste au service éco et conso d'RTL. Vous rêvez de faire pousser des tomates cerises dans votre jardin ou sur votre balcon et ne savez pas comment vous y prendre? Eh bien comptez sur Pierre Nesman, paysagiste et rédacteur en chef de l'émission Mission Végétale diffusée sur M6 pour vous y aider. Hormis avec des carottes et des lardons, comment cuisiner les petits pois? Ne manquez pas les savoureuses recettes de notre princesse aux petits pois, Angèle Ferreux-Max, chef, naturopathe et créatrice de la guinguette d'Angèle à Paris.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Et grâce à elle, chaque semaine, on peut faire des économies. Bonjour Armel Lévy.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service Oco et Conso d'RTL. Vous êtes vraiment notre amie du samedi matin. Merci d'être là chaque semaine. Alors, moi, j'y comprends rien. Le cashback, vraiment, vous allez nous éclairer ce matin parce qu'il en est plein qui doivent se poser la question comme moi. Quand je passe une commande sur un site internet, il nous est régulièrement proposé donc un cashback. Est-ce que vous pouvez éclairer ma lanterne et celle des auditeurs? Qu'est-ce que c'est qu'Esaco?
Alors, en fait, c'est simple. Enfin, c'est simple. Une fois qu'on a compris.
Voilà. Bon. Donc, on va considérer qu'on est au stade d'avant.
Le cashback, c'est une mécanique qui vous permet, en achetant en ligne, ou même de plus en plus en magasin, de récupérer une partie de votre achat sous forme d'euros ou de points qui sont placés dans une cagnotte. Et une fois que la cagnotte a atteint un certain montant, vous pouvez la débloquer et récupérer votre argent sur votre compte bancaire classique pour en faire ce que vous voulez. Et si la cagnotte fonctionne en points, vous pouvez la dépenser en cadeau, en carte cadeau, la verser à une association ou parfois la récupérer aussi en argent.
D'accord.
Donc, si on traduit en français, le cashback, c'est une remise, une réduction de 3%, 6%, 30% du montant de l'achat que vous allez toucher, mais généralement un mois après. Cela peut être au bout de 2 jours si c'est au restaurant ou 2 mois si c'est un voyage. Il y a des délais incompressibles pour être sûr que vous n'allez pas annuler l'achat ou vous rétracter.
Donc, ce n'est pas une remise qui est appliquée quand on achète. C'est une réduction, je dirais, postérieure. Quoi. C'est une sorte de programme de fidélité un peu masqué.
Oui, alors, sauf que le cashback, ce n'est pas comme la carte de fidélité en magasin. C'est multi-enseigne. Vous pouvez faire vos achats à la fois chez Darty et chez Boulanger, donc dans 2 enseignes concurrentes. Vos remises tombent dans la même cagnotte et l'argent récolté, vous le dépensez où vous voulez. Mais sur le principe, oui, vous avez raison, le cashback, c'est un programme de fidélité. Il récompense les achats réalisés sur les sites de cashback qui rassemblent plusieurs milliers d'enseignes partenaires, dont les plus grandes marques de vêtements, de chaussures, pièces auto, voyages, parfumerie, fleuristes, marques de cosmétiques, courses alimentaires.
Ok, mais alors, il y a beaucoup de gens qui y recourent en France, s'appeler aux consommateurs, ça?
Ça marche pas autant que dans les pays anglo-saxons. Hein. Aux États-Unis, ils sont coutumiers du fait, ils l'utilisent depuis les années 70. Chez nous, le cashback existe depuis une quinzaine d'années. Selon le syndicat national du cashback, aujourd'hui, 62% des acheteurs en ligne connaissent le cashback et dans les faits, seulement 1 Français sur 5 l'a utilisé au moins une fois pour ses achats.
D'accord, comment ça fonctionne?
Alors déjà, vous devez créer un compte en ligne, vous vous inscrivez sur le site de cashback. Après, vous accédez au catalogue des marchands partenaires. Il suffit de cliquer sur l'offre qui vous intéresse et vous arrivez sur le site de la boutique en question. Par exemple, vous repérez une très belle paire de chaussures à 100 € avec 10% de remise. Vous payez normalement avec votre carte bancaire habituelle. Et ensuite, vous recevez une notification du site de cashback disant « Nous venons de constater que vous venez d'effectuer un achat de 100 € sur la boutique en ligne. » Donc, vous avez 10 € de cashback en attente sur votre compte. Le marchand de chaussures va ensuite valider le cashback. Oui, oui, l'achat a bien été fait. D'accord. L'utilisateur n'a pas retourné la marchandise. Il va valider vos 10 € dans votre cagnotte. Et après, vous pourrez transférer ces 10 € et toutes les autres réductions accumulées sur votre compte bancaire ou les dépenser en carte cadeau.
Mais on est obligé de passer par le site de cashback pour acheter?
Oui, mais en fait, maintenant, vous pouvez télécharger une extension sur le navigateur, sur votre moteur de recherche. Cela marche avec le système des cookies, les traceurs.
Ah bah, c'est ce que m'a fait mon fils.
Voilà, bah quand vous allez naviguer sur une boutique en ligne depuis votre moteur de recherche, le site marchand va recevoir une alerte en disant « Ah, cet utilisateur, il vient du site de cashback ». Donc au moment de l'achat, vous aurez un petit rappel. Pensez à cliquer ici pour bénéficier de votre offre cashback. Mais il faut accepter les cookies les traceurs sur votre ordinateur.
Et ça, c'est casse-pied quand même. L'inscription, elle est payante?
Non, les grands acteurs du marché sont tous gratuits et sans engagement. Il n'y a pas d'abonnement parce que les sites de cashback se rémunèrent en prenant une commission sur chaque transaction. Mais attention, j'ouvre une parenthèse, vous pouvez trouver des sites de cashback qui sont payants, qui font du tort au secteur et les services de la répression des fraudes les ont dans le collimateur parce que leurs pratiques sont douteuses. En fait, quand vous faites un achat sur des sites marchands bien connus, parfois à la fin, une fois votre commande payée, on vous propose de gagner une réduction de 20 euros sur votre prochaine commande. Mais si vous vous inscrivez, vous pouvez vous retrouver avec un abonnement de 15 euros par mois parce que vous n'avez pas lu les conditions générales de l'offre. Donc soyez vigilants. Vous pouvez faire jouer votre délai de rétractation de 14 jours, mais je le répète, il n'y a pas de raison de devoir payer pour avoir du cashback, c'est gratuit. Et sans engagement.
Et c'est vraiment avantageux alors ?
Oui, parce que vous gagnez de l'argent sans rien faire.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est un peu comme l'épargne. Si vous ne placez jamais rien sur votre compte, forcément, votre épargne ne vous rapporte rien. Donc c'est avantageux si vous êtes un utilisateur assidu. Si à chaque fois que vous faites un achat en ligne, vous pensez à passer par votre site de cashback, alors oui, ça peut rapporter 50, 100, 200 euros par an. Mais il faut avoir le réflexe aussi de changer de marchand, par exemple. Vous voulez réserver un hôtel sur un site, mais vous pouvez comparer sur un autre site pour voir si le cashback n'est pas plus intéressant. Donc ça peut valoir le coup de changer.
Comprends.
C'est vraiment un réflexe à prendre. Comme ceux qui découpaient les petits coupons de réduction et en caisse pensaient à les donner.
Ouais, c'était avant ça.
Voilà, mais à la fin de l'année, toutes ces petites économies cumulées, ça permet de se faire plaisir, de financer une sortie en famille ou d'offrir un cadeau de Noël en plus.
Et dites-moi, j'y pense là, on peut cumuler cashback et code promo ?
Oui, les codes promo qui sont relayés sur les sites de cashback sont cumulables avec le cashback.
Est-ce que les sites de cashback et enseignes, ils gagnent quelque chose par notre fidélité ?
Le site de cashback est un apporteur d'affaires, il va faire venir de nouveaux clients, donc il va gagner de l'argent à chaque fois qu'un utilisateur va passer par sa plateforme pour acheter sur un site marchand.
On va se retrouver dans un instant. Armelle Lévy, j'en ai pas fini avec mes questions. Vous le savez et ce sera tout de suite sur l'antenne d'RTL dans Nous Voilà Bien.
Nous Voilà Bien sur RTL avec Flavie Flamand. Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, Nous Voilà Bien.
Our best things in life are free, but you can give them to the birds and bees.
Tout à l'heure, on parlera des tomates cerises, on parlera des petits pois, mais pour l'heure, on parle du cashback. Armelle Lévy, on l'a compris, les sites de cashback sont des apporteurs d'affaires. Donc en fait, finalement, il faut venir de nouveaux clients. Donc ça, c'est quelque chose qui effectivement les fait tourner. Comment un site de cashback gagne de l'argent ? Si moi j'en gagne, comment eux, est-ce qu'ils vivent ?
Eh bien, ils négocient ses propres commissions avec les marchands. Si le site de cashback négocie 10% de commission pour un achat de 100 euros, il va toucher 10 euros quand vous allez acheter cet article. Mais derrière, il va vous en redonner 70%, 7 euros de remise, et garder 30%, donc 3 euros pour lui. C'est ça le modèle économique.
D'accord, d'accord.
Il faut
bien calculer, heureusement que vous êtes là. Okay.
C'est que l'enseigne qui paye pour avoir de nouveaux clients.
D'accord.
Si c'est une nouvelle marque, elle paye pour se faire connaître. Si c'est une marque historique bien installée, elle en fait un outil de promotion pour animer ses ventes dans les périodes creuses. Ou au contraire, au moment des soldes, elle va en faire encore plus de réductions pour se distinguer de ses concurrents. Tout ce système de cashback est en fait financé par le marchand.
Il existe différents sites de cashback, j'ai l'impression. Comment est-ce que je peux m'y retrouver et bien choisir ?
Je vous invite surtout à ne choisir que ceux qui sont gratuits.
Ah oui, c'est ça.
Il faut voir le nombre d'enseignes partenaires et le pourcentage de réduction. Le premier site de cashback en France, c'est igral.com, qui compte 7 millions d'inscrits, hein, pas mal, avec plus de 1700 marchands partenaires. Ensuite, il y a Poulpeo et eBike Club, qui comptent un peu moins d'utilisateurs, mais respectivement 1600 et 1400 sites marchands. Et après, il y a des acteurs de niche comme Capital Koala, qui a un positionnement plutôt envers les familles, et des acteurs un peu plus jeunes qui viennent d'arriver avec des applications comme Joko. Donc n'hésitez pas à regarder les avis, et rien ne vous empêche d'en tester, comme
c'est
gratuit.
Ça. Voilà. Oui, c'est ça.
Mais c'est mieux de n'en choisir qu'un seul, car après, il faut jongler entre les sites, et ça devient compliqué.
Oui, une vraie gestion, quoi. Alors, il y a quelque chose qui m'a surprise dernièrement, c'est que j'ai l'impression que ma banque s'y est intéressée, m'a proposé du cashback. En tout cas, j'ai vu mon compte crédité de cashback.
C'est vrai.
De la part de ma banque.
Elles sont malines, ces banques.
Sans blague.
Oui, avant, certaines proposaient des programmes de fidélisation à chaque utilisation de la carte bancaire, vous aviez des points que vous pouviez transformer en grippin, bref, en cadeau à choisir sur un catalogue, et celles qui payaient. Maintenant, certaines, comme LCL, Société Générale, vous proposent d'adhérer gratuitement à un programme de fidélité. Et quand vous achetez chez un marchand partenaire, internet ou physique, avec votre carte bancaire, cela va déclencher un cashback automatique qui va se retrouver dans une cagnotte ou directement sur votre compte bancaire. Donc c'est fini le catalogue. Sur l'appli de la banque, sur votre smartphone, vous dites où vous êtes et vous voyez les offres partenaires autour de vous. 10% de remise sur les courses alimentaires ou chez l'opticien, la boulangerie, à la boucherie, dans le magasin de bricolage ou de vélo. Donc juste à côté. Et c'est l'enseigne qui paye ses 10% de cashback. En échange de quoi ? La banque met en avant auprès de ses millions de porteurs de cartes le fait d'aller faire ses courses dans cette enseigne.
Le cashback, c'est le moyen de consommation de l'avenir. Quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas faire autrement.
Oui, mais
demain.
Alors, on entend les critiques. Hein. Certains utilisateurs de cashback aujourd'hui trouvent ça bobo parce qu'ils ne gagnent pas assez ou parce qu'ils oublient de passer par la plateforme pour réaliser leurs achats. Donc aujourd'hui, effectivement, des sites français de cashback réfléchissent à simplifier les choses, à créer eux-mêmes leur propre carte bancaire, comme iGraal, pour payer avec, y compris en magasin, et avoir l'argent tout de suite versé sur le compte bancaire. On est à un tournant. Donc si vous voyez aussi les cartes des GAFA, comme la carte Apple, qui un jour vont arriver en France, nativement, elles ont tout ça. Donc bien sûr, si le cashback est inclus dans la carte bancaire, tout le monde y viendra. C'est une tendance aussi lourde que d'avoir dit à l'époque, si vous payez votre voyage avec votre carte, vous serez assuré, vous n'avez pas besoin d'assurance en plus. Ça a fait décoller l'utilisation des cartes. Mais la France reste très protectrice pour les données personnelles, ce qui explique que le déploiement prend un peu plus de temps qu'ailleurs.
Merci beaucoup Armelle Lévy. Je vous laisse rejoindre la rédaction d'RTL. Vous saluerez tout le monde de notre part.
Avec plaisir.
Et je suis sûre que vous essayez de faire pousser des tomates cerises sur vos balcons.
Ah oui, j'essaye, mais ne sais pas. Faut que je les plante dans un peu plus gros pot.
Mais moi, j'ai l'impression que cette émission, elle est faite pour vous, parce que dans un instant, Pierre Nesman va nous expliquer comment faire. Il paraît que c'est très simple. Alors franchement, vous n'avez pas la main verte, ni la main rouge côté tomate. À tout de suite sur RTL. Merci Armel. J'avais presque envie de rajouter comme de bien entendu, mais c'est Renaud ce matin sur l'antenne d'RTL. Pierre Nesman, bonjour.
Bonjour Flavie, bonjour à tous.
Comment allez-vous Pierre ?
Super bien, et puis quand on parle de tomates, j'adore, donc
mais
je suis vraiment très heureux.
C'est un peu la reine du potager l'été, la tomate.
C'est effectivement la reine du potager, c'est un légume très consommé, alors après la pomme de terre bien entendu, et puis au jardin c'est vrai que les plants de tomates et les graines de tomates, eh bien, ce sont les éléments les plus vendus au printemps effectivement pour le potager.
Ce ne sont pas les plus fragiles du potager les tomates ?
Non, c'est assez costaud, c'est des plantes qui poussent relativement bien, qui sont faciles à vivre, qui sont assez généreuses. Alors évidemment il y a quelques petites conditions qu'on regardera ensemble tout à l'heure pour pouvoir les faire pousser de manière tout à fait harmonieuse et puis d'avoir de belles récoltes.
C'est marrant parce que j'ai l'impression que la tomate cerise est plus solide, puisque c'est d'elle dont on va parler, plus costaude, je dirais. Elle a le vent en poupe hein, depuis quelques années.
Alors effectivement, elle a le vent en poupe. Elle est un petit peu plus costaud parce qu'elle est un peu moins exigeante et surtout elle est très très généreuse. Alors elle est petite par sa taille, mais elle est très très grande par son succès. Alors on va l'appeler tomate cerise, tomate cocktail aussi parce qu'on la consomme effectivement en apéritif. Et puis tomate cerise, ben, ce nom évoque bien sa taille, sa couleur. C'est vrai que ce sont des petits fruits.
Bah, en fait, elles sont pratiques à cuisiner, mais il y en a plein de différentes. Il y en a des rondes, il y en a des olives un petit peu
c'est... Effectivement, on a des variétés rondes, c'est les plus classiques. Hein. Les rondes et les rouges, c'est les plus classiques, c'est celles qu'on va trouver. Mais on va aussi avoir des rondes qui sont jaunes, on va avoir des rondes qui sont vertes, et on va avoir des petites tomates rondes qui sont même presque noires, et c'est pour ça qu'on les appelle aussi les tomates cerises. Oui. Et puis il y en a comme olivier, Flavie, effectivement, qui ont des formes d'olives. Il y en a même qui ont des formes de poire. Alors il y en a des jaunes en forme de poire, il y en a des rouges en forme de poire, et puis il y en a même des rouges très foncés, presque que noir en forme de poire. Et c'est vrai que dans les apéritifs, c'est assez rigolo.
Oui, puis je trouve ça assez pratique parce que, comment dire, la chair, il y a moins de pépins dans une petite tomate cerise. Je trouve que ça se cuisine plus facilement.
Ça se cuisine plus facilement et puis à consommer, effectivement, c'est assez agréable.
Bon, on peut la cultiver en pot, la tomate cerise, qu'on ait ou pas un jardin ?
Alors justement, elle apprécie énormément la culture en pot. Elle apprécie la pleine terre, bien sûr, quand on a un jardin. Mais les pots, les bacs, les rebords de fenêtres avec des jardinières, elle apprécie. Il faut au minimum 30 à 40 cm de volume de terre quand vous avez un pot carré ou un pot avec un rond, un diamètre 30-40 cm. Et puis pour ceux qui n'ont pas de balcon, de terrasse, rebord de fenêtre, ça peut marcher aussi. Il faut alors dans ce cas-là une jardinière entre 15 et 20 cm de hauteur de largeur sur 60 cm de long.
Mais donc c'est uniquement en extérieur si je vous écoute.
Alors complètement à l'extérieur. Évidemment, les jardiniers qui ont un potager vont les cultiver sous tunnel, éventuellement dans une véranda. Et il faut les mettre à l'extérieur. Elles ont besoin d'avoir beaucoup de lumière, de l'air, de vivre vraiment à l'extérieur. Dans la maison, c'est pas très pratique. On peut essayer, mais au bout de quelques semaines, elles finissent par dépérir.
Est-ce que toutes les tomates cerises, quelles qu'elles soient, peuvent être plantées ? Comment est-ce qu'on les choisit bien ?
Oui, effectivement, il vaut mieux acheter des plants, vous avez raison Flavie, plutôt que d'acheter des graines. Pourquoi ? Parce que quand on a un balcon, une terrasse, on a besoin de quelques plants 3, 4, 5, maximum 6, 8, 10 plants. Ouais. On n'a pas besoin d'avoir énormément de plants. Et quand on fait du semis un paquet de graines, il y a des centaines de petites pousses qui vont se développer. On se retrouve avec des centaines de plants de tomates, on ne sait pas quoi en faire. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus judicieux d'aller les choisir chez un horticulteur, dans une jardinerie, parce que non seulement vous allez acheter le nombre dont vous avez besoin, mais vous allez aussi pouvoir peut-être choisir et diversifier d'une année à l'autre. Choisir une année des rondes rouges, une année des tomates poires, etc. Donc ça, c'est assez intéressant de pouvoir un peu diversifier les variétés.
Bon, vous vous doutez bien qu'on n'a pas fait le tour de la tomate avec vous, hein ? Donc on va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL. A tout de suite, Pierre Nesman.
Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand. Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Et dans un instant, c'est Angèle Ferrema qui va venir nous parler du petit pois. Mais pour l'heure, on parle de la tomate avec Pierre Nesman.
Les tomates cerises deviennent rouges, je les mange.
C'est Nathalie Tual qui nous parle en chanson des tomates cerises, puisqu'elles sont à la une de notre discussion avec Pierre Nesman, qui est paysagiste et qui est donc rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique. Dites-moi, on s'était dit qu'il valait mieux donc choisir des plants de tomates cerises pour les faire pousser chez soi, toujours en extérieur ou alors sous une véranda. Si je choisis de planter des graines, moi c'est pas mon truc parce que j'ai pas la patience. Hein. Mais comment est-ce qu'on les plante, les graines ?
Alors c'est tout simple, vous allez ouvrir le sachet de graines, vous allez remplir un peu de terreau dans une petite coupe, hein, éventuellement un pot, et puis vous allez semer très légèrement, tasser, arroser, placer le tout à la lumière et à la chaleur, et puis les tomates vont commencer à germer. Oui. Au bout de quelques semaines, vous allez avoir des jeunes petits plants.
Mais je fais des trous dans la terre pour mettre mes...
Non,
ah, voilà, c'est
non,
ça
non
que je
vous allez tout simplement déposer les graines à la surface du terreau, allez recouvrir avec un peu de substrat, de terreau, vous allez tasser avec la main, arroser, et puis vous allez patienter quelques jours, quelques semaines, avant de voir effectivement les germes se développer. Et puis quand vous aurez des tomates qui auront 10 cm de haut, environ deux niveaux de feuilles formées, vous allez pouvoir les rempoter dans un petit pot un peu plus grand, et puis ensuite vous les mettrez sur votre balcon dans un grand bac.
Ok, donc à quel endroit est-ce que je dois les placer ? Parce que vous m'avez dit, bon, il faut que ça vive, pleine lumière et tout, mais plein soleil ?
Alors, pleine lumière et plein soleil, effectivement, pour que les feuilles se développent, pour que les fleurs s'épanouissent et que les fruits surtout mûrissent, il leur faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière et du plein soleil. Alors évidemment, si on les met en plein soleil, elles vont avoir chaud, et donc va falloir les arroser très, très, très souvent. Alors je préviens tout de suite les jardiniers qui vont se lancer dans la culture de la tomate, c'est un arrosage tous les jours, parce que la tomate ne supporte pas d'avoir des à-coups de soif.
D'accord, donc la tomate ne doit pas avoir soif, donc il faut l'arroser tous les jours, on ne l'arrose jamais en plein soleil, on attend la fin de la journée ou on le fait très tôt le matin quand le soleil n'est pas encore levé.
C'est tout à fait ça.
Sinon, ça fait brûler les feuilles.
Sinon, ça fait brûler les feuilles, effectivement. Et puis alors, en plus de l'arrosage,
on va apporter... Oui, pardon.
Mais là, vous faites beaucoup de progrès, là, récemment. Et rien que sur la tomate, je suis surpris. Alors, on va parler de l'engrais, parce que ça, c'est très important. Oui. Il faut qu'on leur donne à boire, il faut aussi qu'on leur donne à manger. Donc, on va leur donner un engrais, et dans les jardineries, on va trouver un engrais spécial tomate. Alors, on se dit toujours, qu'est-ce qu'il a de plus, cet engrais spécial tomate ? Eh bien, il a de la potasse, en plus. La tomate a besoin de potasse pour développer ses fruits. Et donc, c'est une matière, une substance qui est nécessaire pour la formation de la chair, pour la saveur. Et donc, c'est pour ça qu'on a des engrais spéciaux tomates qui est destiné aux tomates avec cette dominance potassique.
Et dites-moi, quel problème est-ce que je peux rencontrer ? Parce que je pense aux feuilles qui jaunissent ou qui blanchissent ou qui brunissent. Ça veut dire quoi, ça, d'ailleurs ? Ça veut dire que ça manque d'eau ? Ça veut dire qu'il en faut plus ?
Oui, il va y avoir des petits tracas. Alors, les petits tracas, on a vu tout à l'heure le manque d'eau, le manque d'engrais, les courants d'air aussi. Les tomates n'apprécient pas les courants d'air, les nuits fraîches et humides. Et donc, tout ça, c'est des petits tracas.
Mais sont un petit peu capricieuses, les petites tomates, là, quand même.
Non, je vais vous rassurer parce que l'on va décevoir tout le monde. Non, non. En fait, oui, tous ces petits tracas, on arrive facilement à les remédier en leur apportant de l'engrais, de l'eau, etc. Après, il peut y avoir des maladies, effectivement. On a le mildiou. Le mildiou, c'est un champignon qui provoque des taches noires sur les feuilles et les fruits. Alors, il se développe surtout lorsqu'il fait un peu humide et un petit peu frais. On va avoir également le botrytis et l'odium, qui sont des champignons que l'on reconnaît parce qu'ils vont déposer une petite pellicule blanchâtre sur les feuilles. Là, c'est quand l'atmosphère est un peu trop confinée. Alors, quand les feuilles sont malades, on va les supprimer, on va éviter de traiter, on va les supprimer pour essayer de contenir la maladie. Mais vous avez parlé tout à l'heure très justement de feuilles jaunes. C'est très souvent de la chlorose, un manque d'engrais. Et là, on va pouvoir y remédier en apportant de l'engrais. Et puis, c'est vrai que les tomates, elles ont quelques maladies. L'anthracnose, l'alternariose. Vous avez également la maladie du cul noir. Alors, pardon, c'est pas très élégant.
C'est quoi la maladie? Ah non, mais je veux savoir ce que c'est la maladie du cul noir.
Ah bah oui, la maladie du cul noir, c'est lorsque le dessous des tomates commence à noircir, à pourrir, à se décomposer. Ah. C'est la maladie du cul noir. Donc, c'est en fait une maladie qu'on retrouve souvent en fin de saison, quand les étés sont un petit peu pluvieux, un petit peu frais, quand l'automne est un petit peu plus humide. Et ça, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais je rassure tous nos auditeurs, c'est vrai qu'elles peuvent être sensibles à des parasites et à des maladies, notamment. Aujourd'hui, on a des variétés greffées. Et souvent, quand on va les acheter dans une jardinerie, c'est intéressant de demander des tomates greffées parce qu'elles sont beaucoup plus résistantes justement aux bactéries, aux viroses et à toutes ces maladies qu'on vient d'évoquer.
Bon, alors une fois qu'on a réglé toutes les histoires de maladies, qu'on les a bien arrosées, que ceci, que cela et tout, au bout de combien de temps est-ce que je peux espérer récolter mes belles tomates cerises pour vous inviter à l'apéro?
Alors, vous allez m'inviter, si on les plante ce week-end, on va pouvoir les déguster dans un mois et demi à deux mois, c'est-à-dire la mi-juillet. Ah oui, c'est vrai, il va falloir attendre un petit peu. Il faut compter 55 à 60 jours, donc environ deux mois. Alors c'est vrai que là, on peut les planter ce week-end, on en aura cet été, et cet été jusqu'au mois d'octobre, hein, je rassure, ça a une production qui continue. Oui, ça pousse en permanence, c'est-à-dire que vous avez constamment des fleurs qui se développent, des fruits à maturité, donc c'est pratiquement une végétation continue jusqu'à l'automne, jusqu'en octobre. Et pour les jardiniers qui auraient voulu commencer plus tôt, si vous aviez voulu me recevoir un petit peu plus tôt, Flavie, ben moi je vous conseille de les planter au mois d'avril. Alors là, il fait encore un petit peu froid, des gelées blanches, des nuits un peu fraîches, on peut les protéger avec un petit manchon, c'est-à-dire ce sont des voiles avec lesquelles on va envelopper la tomate de manière à ce qu'elle ait des nuits un tout petit peu plus douces. Et puis en les plantant en avril, on va effectivement pouvoir commencer à les déguster au mois de juin, c'est-à-dire d'ici une quinzaine de jours. Mais là, c'est un petit peu trop tard. Vaut mieux avoir
J'irai vous acheter des tomates cerises bio et puis voilà, on se fera un petit apéro. On ne va pas attendre mi-juillet. Dernière question, quand je récolte mes tomates, qu'est-ce que je fais de la partie végétale qui supportait mes tomates? Est-ce que ça se coupe les plants de tomates?
Les tomates cerises, le gros avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de les tailler. Elles ont une végétation assez exubérante et c'est vrai qu'on peut les laisser pousser. En revanche, quand elles poussent beaucoup, on peut les rabattre, les tailler. Et on va tailler les branches qui nous embêtent, qui sont trop importantes. Et puis surtout, deux autres petits détails, on va pouvoir les palisser sur une balustrade, un treillage, des tuteurs. Justement, quand elles poussent de manière très généreuse, eh bien, il faut les soutenir, les maintenir, parce qu'elles ont tendance à tomber. Donc on va les accrocher sur un support.
Oh, qu'est-ce que c'était bien, dites-moi. Voilà. Vous avez vu, c'est la saison des petits pois aussi, là, ils sont en train d'arriver. C'est trop bon. Et on va en parler avec Angèle Ferremax. C'est difficile de cultiver les petits pois?
C'est assez facile, mais non, c'est assez contraignant. Balcon terrasse, on oublie, mais plutôt au potager. Oui.
D'accord, très bien. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir parlé de la tomate cerise. Je vous tiens au courant pour l'apéro, Pierre Nesman. Merci beaucoup. Rustica pratique. Voilà. Et puis je rappelle l'émission Mission Végétale diffusée sur M6. À bientôt, Pierre Nesman.
Au revoir, Flavie. Au revoir à tous. Pierre.
Les petits pois, c'est un légume bien tendre. Les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts.
Bonjour Angèle Ferremax.
Bonjour Flavie.
Vous êtes chef, créatrice de la guinguette d'Angèle à Paris et naturopathe. Mais si ça se mange avec les doigts, les petits pois.
Moi, bah oui, on peut les manger avec les doigts, bien sûr.
Et c'est fou parce que, alors, vous savez quoi? Quand j'étais petite, je détestais les petits pois parce qu'on me versait une pauvre boîte de petits pois dans une casserole et puis je les voyais en train de flotter, là, comme ça, dans l'eau de cuisson. Enfin, je trouvais ça vraiment pas bon jusqu'au jour où j'ai découvert le petit pois, the real petit pois, vous voyez? Et ça, ça a tout changé parce que c'est délicieux.
C'est absolument délicieux, là. C'est la saison, ça dure pas longtemps, mais ils sont frais, c'est un bonheur.
Bon, eh bien, on va se retrouver dans un instant parce que vous allez tout nous dire sur le petit pois. Angèle Ferremax. À tout de suite.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Elle faisait chauffer au feu de bois.
On est ensemble jusqu'à 10h et voilà encore quelques minutes à passer avec Angèle Ferremacht. Alors je ne sais pas si vous les faites chauffer au feu de bois les petits pois, Angèle, mais on peut faire plein de trucs avec.
Mais on peut faire plein de trucs, pourquoi pas les faire chauffer au feu de bois, si mais on a du feu et du bois.
On y pensera. Est-ce qu'il existe différentes variétés de petits pois?
Oui, il existe plusieurs variétés de petits pois. Les petits pois, c'est les Pisum sativum. Et donc, dans la catégorie, on a les petits pois à grains ronds, qui ont la chair un petit peu farineuse. On a les petits pois ridés qui sont un petit peu plus sucrés, un peu plus gros. Et les pois mange-tout, qu'on appelle aussi les pois gourmands, qu'on mange tout entier avec la gousse.
D'accord, ok. Et ils ont un super intérêt nutritionnel, les petits pois?
Déjà, ils ont plein de minéraux et d'oligo-éléments. Ils ont des vitamines du groupe B, des vitamines du groupe C. Donc ça, on garde des vitamines évidemment que quand on ne les chauffe pas trop. Ils contiennent aussi des fibres qui sont douces, donc qui sont faciles à assimiler, qui vont être bonnes pour la flore intestinale. Ils possèdent aussi deux pigments qui sont hyper intéressants, qui sont des antioxydants, qui s'appellent la lutéine et la zéanxanthine, qui vont aider la rétine à fonctionner du tonnerre, donc avoir une bonne vue.
Alors, entre les petits pois et les haricots verts, auxquels mes fesses disent le plus merci?
Tes fesses disent « vive la vie » avant tout.
Ah, on est d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a de plus calorique au-delà du « vive la vie » ?
Ces petits pois, en fait, ils sont de la famille des légumineuses. Donc, contrairement aux haricots verts, aux brocolis et tout ça, c'est pas considéré comme des légumes verts. Ils sont plus dans la famille des pois chiches, des lentilles, tu vois.
D'accord, ok. Donc, le haricot vert est plus régime, en tout cas, plus léger que le petit pois. Bah, vous voyez, pour le coup, j'ignorais complètement. Quand on a la chance de trouver des petits pois frais, comment est-ce qu'on les choisit bien?
Alors, moi, je trouve que c'est un petit peu comme tous les légumes. On les séduit, on les sent, on les regarde. On regarde si c'est bien ferme, si c'est pas mou, si la coque est bien cassante. Plus c'est frais, moins c'est fripé, plus on aime.
D'accord, ça se conserve comment les petits pois?
Alors ça se conserve, en fait ça se conserve pas très très longtemps, hein. Donc c'est pour ça qu'on les trouve d'ailleurs autant en pot, parce que la période est très courte, c'est vraiment mai à juin. Et donc pour les conserver, donc soit on les garde quand on les achète frais dans la partie base du frigidaire, par exemple dans un tissu un petit peu humide, ou alors on va en faire des conserves. Donc vous savez, on les met dans des bocaux et puis on fait cuire avec une légère saumure, donc un petit peu de sel dans l'eau, et on va faire cuire avec la petite rondelle du bocal jusqu'à ce que ça, la pression, toute l'eau sorte du bocal. Et comme ça, on peut les conserver jusqu'à un an. Ça, c'est toutes les méthodes de conservation. On peut aussi, bien sûr, les congeler. Ça marche très bien. Et on peut en faire des chutneys, on peut en faire, pourquoi pas, des ketchup, on peut en faire pas mal de trucs.
Des soupes avec de la menthe, parce que ça, c'est trop bon.
Mais alors justement, c'est délicieux.
Et je pensais aux soupes de petits pois. Comment est-ce qu'on assouplit la peau des petits pois? Parce que vous voyez, pour des soupes, parfois, effectivement, moi, je cuis mes petits pois frais. Je veux faire une soupe avec de la menthe et de la crème. Et en fait, il y a toujours, quelque part, la peau que je n'ai pas réussi à assouplir.
Soit on a un mixeur super pro et qui réduit tout en crème. Mais sinon, on peut les passer au chinois ou au tamis. Et donc, on écrasera bien, on récupérera que le nectar, le côté bien onctueux. Et la peau restera dans le tamis. Et puis la peau, on pourra en faire autre chose, comme des falafels, par exemple.
Ah, pas idiot, ça. Pas idiot, c'était, vous faites comment?
Alors, ça marche super bien, les falafels de petits pois. Donc, on prend à peu près 200-250 grammes de petits pois. On va les mélanger avec un peu de flocons d'avoine ou de farine, à peu près 35 grammes. Un œuf. On prend un oignon ou de la ciboule ou de l'oignon nouveau, enfin un petit goût soufré comme ça. On peut mettre des feuilles de menthe, de la coriandre, du persil, tout ce qu'on veut. On va mixer tout ça avec un petit peu de sel et de poivre si on veut. Ensuite, on en fait des petites boules, ça nous fait comme une pâte. On peut les rouler dans du sésame. On les met au four à 180 degrés une vingtaine de minutes. Et ensuite, on les déguste avec une petite sauce yaourt, tahine, citron, herbes fraîches. Et c'est un délice, ça fait des falafels tout verts. Super bon, ça marche très bien.
Et dites-moi, les petits pois, on peut les cuisiner de plein de façons différentes, parce qu'on peut les cuisiner vapeur, on peut les cuisiner à l'eau, on peut les cuisiner aussi au beurre.
Bien sûr, alors vraiment, les petits pois, on peut les faire comme on veut. C'est vrai qu'on a l'habitude de petits pois lardons et tout ça, qui sont un peu classiques, mais en fait, on peut faire des dips avec les petits pois, par exemple. Donc, on peut les mixer un peu comme un houmous. Donc on peut les mixer avec un peu d'ail, du jus de citron, de l'huile d'olive, encore un petit peu de tahine qui est la purée de sésame, et ça va être super pour l'apéro par exemple.
Après les avoir cuits comment? À la vapeur?
Et ben on n'est même pas obligé de les cuire quand on fait
génial.
Des
génial.
On peut carrément le faire cru. Ouais, même les soupes, moi j'aime bien mettre faire des soupes crues de petits pois.
Ah,
avec
bon,
plein d'herbes aromatiques et tout ça, un petit peu comme des gazpachos.
D'accord.
Donc il faudra que ce soit très très frais. Ça marche super bien, et d'ailleurs quand on a des petits pois surgelés, on n'a pas besoin de les faire décongeler. On les mixe directement avec des herbes fraîches.
Okay.
Et ça nous fait une super soupe glacée. On peut faire des tchatchouka aussi, c'est avec des tomates, des petits pois. Et puis dans la poêle, on casse directement l'œuf qui va cuire dans tout ça. C'est assez sympa.
Vous parliez des petits pois carottes et des petits pois lardons. Bon, ça sont les grands classiques. On peut les marier avec plein d'autres aliments. Ce n'est pas simplement un accompagnement. Le petit pois, on l'a bien compris. Mais est-ce que ça peut se marier avec des fruits, par exemple?
Mais bien sûr. Moi, j'adore surtout quand ils sont frais comme ça, quand ils sont bien sucrés. J'adore faire des desserts avec les petits pois, c'est très surprenant, c'est délicieux et il y a un petit goût, un petit peu de chlorophylle, un goût vert comme ça qui est hyper agréable. Par exemple, on pourrait les faire avec une chantilly de mascarpone et quelques fraises, des petites gariguettes, des maras des bois, ou pourquoi pas des fraises des bois. Et là, c'est délicieux. Donc, vraiment une chantilly avec les petits pois frais, crus et les fraises. Et c'est un dessert qui envoie de la pâtée.
Mais de la pâtée de petits pois.
Bien sûr.
Merci beaucoup Angèle Ferremac d'avoir accepté de passer ce moment avec nous pour parler donc du petit pois. Je rappelle qu'on peut retrouver vos recettes évidemment sur votre page Instagram, qu'on retrouve la guinguette, ça y est, c'est ouvert au 7 rue Cadet dans le 9e à Paris. Et puis votre livre Ma cuisine naturelle pour bébé aux éditions Marabout. Vous êtes venue pour ça aussi aujourd'hui Angèle?
Ah bah oui, pour... Oh yes.
Voilà, on fait plus de bisous, mais on vous dit goodbye.
Goodbye, hello.
C'est pas mal aussi, hein?
C'est génial.
À
salut
bientôt.
Tout le monde, bonne journée.
Angèle, on vous embrasse. C'est déjà la fin de Nous Voilà Bien. En attendant de nous retrouver, vous pouvez patienter grâce au replay de l'émission sur l'appli RTL ou sur Radio Player France. Et puis les recettes, quant à elles, elles vous attendent déjà sur nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous lundi. Ce sera à 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre. Le magazine du partage et de la réflexion la semaine prochaine, 9h15, 10h pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien. Juste après les infos, c'est RTL qui vous régale. Prenez bien soin de vous. Passez un bon week-end à l'écoute de votre radio préférée. Je vous embrasse.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.